Vous écoutez France Inter, il est 19h. Le journal, Cécile Bideau, bonsoir.
Bonsoir. C'est rien de moins que l'avenir de la planète qui est en jeu. La COP26 a commencé en Écosse. Le monde cherche des solutions pour limiter la catastrophe climatique qui s'annonce. Nous sommes en direct de Glasgow dans un instant. Une conférence internationale s'ouvre tandis qu'un sommet mondial se ferme. Nous allons à Rome faire un bilan du G20, résumé ainsi par Emmanuel Macron.
Oui, je pense que c'est un succès et c'est vraiment une étape d'avancée importante sur ce sujet du climat.
Dans ce journal, les élections législatives au Japon remportées par la coalition conservatrice au pouvoir. Des tags qui mettent la tête de policier à prix à Savigny-le-Temple en banlieue parisienne. Et puis votre agenda de la semaine à venir. Nicolas Sarkozy sera entendu comme témoin mardi dans le procès des sondages de l'Élysée. Dans le journal des sports, la fin de la 12e journée de Ligue 1 de football. Marseille est sur la pelouse de Clermont ce soir. Il sera aussi question de rugby et de tennis. À suivre dans une demi-heure, les petits bateaux qui répondront notamment à cette question de saison.
Bonjour, je m'appelle Violette et j'ai 7 ans. Je voudrais savoir pourquoi, quand il y a des morts, on s'habille hors noir.
Rendez-vous à 19h30 avec Noël Bréham et ses invités. Juste avant vos prévisions météo, la perturbation du week-end s'éloigne enfin.
France Inter.
Le climat mondial est entré en terrain inconnu. La phrase grave, alarmante, émane de l'Organisation météorologique mondiale qui publie son rapport annuel alors que la COP26 vient de s'ouvrir à Glasgow en Écosse. Pendant 10 jours, les dirigeants, les experts, les organisations non gouvernementales se réunissent pour cette 26e conférence internationale sur le climat afin de tenter de limiter la catastrophe annoncée du réchauffement climatique déjà largement entamée. Sandy Dauphin, vous êtes la spécialiste environnement de France Inter. Bonsoir.
Bonsoir.
Et vous êtes en direct de Glasgow pour suivre la COP26. C'est le premier grand rassemblement des Nations Unies sur le climat depuis le début de la pandémie.
Après un an d'interruption pour cause de Covid, en effet, le sommet climat des Nations Unies s'est ouvert par une minute de silence pour les victimes de la pandémie. Puis le président de la COP26, le Britannique Alok Sharma, a pris la parole solennelle.
Durant cette année, le changement climatique n'a pas pris de vacances. Tous les clignotants sont au rouge au compteur du climat. Et nous savons que cette COP, la COP26, est notre dernier et meilleur espoir de parvenir à limiter le réchauffement de la planète à 1,5 degré.
Dans les couloirs interminables du centre des congrès de Glasgow, où s'affairent diplomates, militants, journalistes, les ONG veulent encore y croire. Jennifer Morgan, directrice de Greenpeace.
Je pense que les jeux ne sont pas faits. Bien sûr, c'est terriblement inquiétant. D'après les prévisions, les émissions de gaz à effet de serre vont augmenter de 16% d'ici 2030, alors qu'elles doivent baisser de moitié. C'est une honte. Les pays ont pris des engagements climat qui ne sont pas en phase avec ce que la science nous dit. Ils doivent profiter de ces 2 semaines pour les rehausser.
Et le temps presse, ces 7 dernières années ont été les plus chaudes jamais enregistrées, d'après un nouveau rapport dévoilé ici, à Glasgow.
Sandy Dauphin en direct de Glasgow avec les moyens techniques de Martin Troadec. C'est donc ce soir que les chefs d'État arrivent à Glasgow. Ils sont plus de 120 à être attendus, à certaines exceptions notables. Le président russe Vladimir Poutine a choisi de ne pas venir, tout comme son homologue chinois Xi Jinping. Un geste fort pour un pays qui est le premier émetteur mondial de CO2. Pour Jean-Paul Maréchal, chercheur à l'université de Paris-Saclay et auteur du livre « La Chine face au mur de l'environnement », cela prouve que le régime chinois n'est pas aussi vertueux qu'il le prétend.
On ne peut pas dire que, contrairement à ce que certains ont pu affirmer ces dernières années, que la Chine était une espèce de puissance leader en matière de lutte contre le changement climatique. Bon, elle apporte sa pierre et c'est très bien qu'elle soit dans un accord comme l'accord de Paris. Ça va dans le bon sens, mais ça n'en fait pas non plus un géant vert, pour mettre des guillemets autour de cette expression, comme certains le disaient il y a encore quelques temps. Et puis là, on ne peut pas dire qu'avec la feuille de route qu'elle annonce et qui n'améliore en rien les objectifs qu'elle s'était fixés il y a un an, qui eux-mêmes d'ailleurs ne bougeaient pas tellement sauf à la marge par rapport aux engagements pris en 2015. Non, clairement, la Chine n'est pas cette puissance responsable, leader en matière de lutte contre le changement climatique.
Jean-Paul Maréchal, auteur du livre « La Chine face au mur de l'environnement » publié chez CNRS Éditions. J'ajoute qu'à Rome, ce matin, en marge du G20, le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, a rencontré son homologue chinois. Les sujets du Tibet, de Taïwan et du respect des droits humains ont été mis sur la table. La capitale italienne qui va donc refermer l'épisode du G20. Tout le week-end, les dirigeants des pays les plus riches de la planète ont cherché des terrains d'entente, notamment sur ce thème du climat. Un accord a été signé pour réaffirmer l'objectif de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré au-dessus des niveaux de l'ère pré-industrielle. En direct de Rome, nous retrouvons le correspondant de France Inter, Bruce de Galzin. Bonsoir.
Bonsoir.
La conférence de presse de bilan de ce G20 vient de s'achever sur quelques notes d'espoir et la fierté du Premier ministre italien Mario Draghi.
Ah oui, Mario Draghi est fier du résultat de son sommet, satisfait devant les dirigeants du G20, satisfait devant les journalistes pendant la conférence de presse finale. Comme l'a déjà dit Joe Biden, ce G20 est un succès selon Mario Draghi et il explique pourquoi.
Oui, c'est un succès dans le sens où nous avons réussi à maintenir vivants nos rêves. En s'engageant à prendre de nouvelles mesures, des soutiens financiers gigantesques, d'autres promesses de réduction de gaz. Et c'est un succès car ces derniers mois, il semblait que les pays émergents n'avaient aucune intention de prendre d'autres engagements.
Le premier engagement, c'est de maintenir l'augmentation moyenne des températures bien en dessous de 2 degrés, de poursuivre les efforts pour la limiter à 1,5. Mais quels efforts et par quels moyens? L'engagement est pris, certes, mais le G20 ne précise pas comment. Autre engagement, la neutralité carbone. Pour Mario Draghi, jamais une date n'avait été actée, c'est vrai, mais lui le souhaitait tout de même. Et là, c'est le milieu du siècle qui est écrit, noir sur blanc. La Chine a obtenu ce terme vague et pourra se permettre de prendre plus de temps. L'Australie, l'Inde, la Russie, l'Indonésie également. Quant aux sommes gigantesques dont parle le président Draghi, il s'agit des 100 milliards par an que le G20 s'engage à donner aux pays les plus pauvres pour affronter le changement climatique. Et là, c'est tout de même une promesse de 2009. Il est donc temps de la tenir.
Un des réels succès de ce G20, c'est l'accord trouvé pour une réforme fiscale historique. Après des heures de tractation, les 20 ont donné leur ultime feu vert à la taxation des bénéfices des entreprises multinationales avec un objectif, mettre fin aux paradis fiscaux. Emmanuel Macron y revenait il y a une heure.
C'est un résultat historique, celui qui permet une taxation juste, 15% à minima, des multinationales et des grandes plateformes du numérique, ce qui pour nos concitoyens était une attente forte. Et ici, je tiens vraiment à souligner ce résultat très concret, d'abord parce qu'il est le fruit d'un travail et d'un combat que la France mène depuis 4 ans, d'un combat qui nous a parfois valu des rétorsions. Je pense en particulier aux viticulteurs français qui ont eu à subir l'ire de la précédente administration américaine et subir des mesures de rétorsion à cause de cela.
Le président français qui a rencontré ce matin Boris Johnson en marge de ce G20, les deux hommes se sont vus en tête à tête pendant une demi-heure pour tenter de trouver une solution à la crise de la pêche, le problème des licences rendues obligatoires par le Brexit. À partir de mardi, doivent entrer en vigueur les premières mesures de rétorsion de la France à l'égard des navires de pêche britanniques. La balle est dans le camp du Royaume-Uni, a dit le président français. Une bataille qui a pris fin, en revanche, lors de ce sommet, celle commencée il y a 3 ans entre les États-Unis et l'Union européenne sur l'acier et l'aluminium. Donald Trump avait imposé une taxe de 25% sur les importations d'acier européen, de 10% sur l'aluminium. Les Européens avaient répliqué en taxant des symboles américains, les motos ou encore les jeans. Joe Biden et la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, saluent ce soir une nouvelle ère dans les relations entre l'Europe et les USA. Au Japon, le parti conservateur reste au pouvoir. Sans surprise, la coalition de droite et de centre-droit obtient la majorité aux élections législatives, environ 260 sièges sur 465. Le premier ministre Fumio Kishida va donc pouvoir poursuivre son action, mais l'opposition sort renforcée de ce scrutin. À Tokyo pour France Inter, le reportage de Karine Nishimura.
Les trois banzai, le cri de victoire, étaient au rendez-vous dans les fiefs locaux des élus, mais l'ambiance n'était pas vraiment festive ce dimanche au siège tokyoïte du PLD, le parti libéral-démocrate du Premier ministre Fumio Kishida. Certes, le PLD est assuré de rester le premier parti et de se maintenir à la tête du Japon, avec le renfort de la formation alliée, le Kometo, mais l'omnipotent parti conservateur a quand même perdu des circonscriptions importantes, comme l'a reconnu le Premier ministre lui-même.
Le PLD à lui seul a en effet perdu de nombreux sièges. Il va falloir bien réfléchir à la réponse à donner à cette situation dans la conduite du pays et au Parlement.
Du côté de l'opposition qui n'a cessé de batailler contre la façon dont ont été gérées la crise Covid-19 et l'accompagnement économique des citoyens, le Parti constitutionnel démocrate de centre-gauche a très fortement progressé. Le Premier ministre Kishida, arrivé au pouvoir depuis moins d'un mois et qui a avancé cette élection dans le but de profiter de la lune de miel, va devoir faire plus de concessions que prévu. Tokyo, Karine Nishimura, France Inter.
Et au moment même où fermaient les bureaux de vote, un homme a attaqué les passagers d'un train au couteau à Tokyo ce midi avant de mettre le feu au wagon. 17 personnes sont blessées. L'agresseur présumé âgé d'une vingtaine d'années a été interpellé. Il faudrait un miracle pour retrouver vivants les 3 alpinistes français portés disparus depuis mercredi dans l'Himalaya. Ils étaient partis à l'assaut d'un sommet vierge de plus de 6000 mètres près du mont Everest quand une avalanche s'est déclenchée. Un hélicoptère des secours népalais a survolé la zone ce matin. Des tags extrêmement violents et menaçants envers les policiers ont été découverts hier soir dans le hall d'un immeuble à Savigny-le-Temple en Seine-et-Marne. On y voit un tableau de prime, 500 000 euros pour, je cite, couper la tête d'un policier ou 100 000 pour rafaler la police à coups de Kalachnikov. Le ministre de l'Intérieur s'est rendu sur place ce matin, Gérald Darmanin.
Ils ont été attaqués. Et en les attaquant, en appelant à leur viol, à leur meurtre, on veut attaquer au viol et au meurtre de la République. Et mon premier devoir avec les élus locaux qui m'accompagnent, c'est d'abord de leur assurer leur soutien et qu'il n'y a pas, il ne peut pas y avoir de provocation comme celle-ci qui reste impunie. Et donc je peux vous dire que la police judiciaire est saisie par le parquet de cette affaire afin que nous retrouvions les responsables et grâce notamment au nouveau délit que la loi a pu créer de pouvoir poursuivre ces personnes qui menacent les policiers.
Gérald Darmanin à Savigny-le-Temple à la mi-journée. Vous avez peut-être décidé d'écraser votre dernière cigarette ce soir pour participer au mois sans tabac qui commence demain. Pour vous y aider tout au long de ce mois de novembre, vous pouvez vous inscrire sur le site du mois sans tabac, appeler des professionnels de santé au 3989 et même c'est la nouveauté cette année, bénéficier de consultations physiques. 5 chiffres sur les Français et la cigarette, c'est à lire ce soir sur franceinter.fr. Ce sont des photos de la vie ordinaire, celles qu'on garde précieusement dans nos téléphones, celles qui composent nos albums de famille, photos d'anniversaire, de fêtes entre amis ou encore de parties de football. Elles composent un très beau livre intitulé « Talashi », cela veut dire « fragment » ou « effacement » en arabe, car ces clichés nous viennent de Syrie. Ils ont été collectés par un photographe documentariste français, Alexis Cordès, qui est allé chercher les souvenirs intimes des Syriens avant l'exil. Cécilia Arbona.
Dans le flot d'images et de vidéos de chaos qui nous parvient de Syrie depuis 10 ans, il y a la guerre, la mort, le dénuement et l'exil. À ces migrants anonymes, Alexis Cordès veut restituer un passé et une identité.
Ce que ces images nous montrent, c'est une forme de normalité. Et ça nous montre des gens qui utilisent la photographie pour raconter une petite histoire et un récit intime. Et que par la projection et l'identification, on pouvait faire naître un sentiment d'empathie. Un sentiment qui ne soit ni de la pitié, ni de la compassion, mais encore autre chose.
Certains portraits sont accompagnés de légendes.
Elle s'appelle Alla. Elle me dit qu'elle a fui la Syrie avec ses 2 sœurs, juste après la mort de son père, un opposant politique. Elle regarde les photos que j'ai collectées. Elle pense à une séquence d'un film de Pedro Almodovar, un fondu enchaîné dans lequel des images d'un présent recouvrent celles d'un souvenir d'enfance.
Et le livre dans l'ensemble est une sorte de mémoire que j'ai tenté de recomposer, mais qui est de toute façon trouée. Et la présence des images ou l'évocation de ces fragments de vie rappelle aussi ce qui a disparu, ce qui n'est pas montré, et aussi convoque les images, pour le coup, qui sont les images de l'actualité.
Ce recueil est un album d'instantané, une empreinte aussi pour ne pas oublier les existences morcelées que le photographe documentaire a croisées.
Talashi d'Alexis Cordès est publié par l'atelier EXB. Vous le reconnaissez à la petite musique, Maxime Fayolle nous a rejoint pour notre séance de sport du dimanche soir. Bonsoir.
Bonsoir.
Avec vous, on va balayer les résultats du jour et les événements de ces prochaines heures. On commence par la Ligue 1 de football. La dernière journée s'achève, la 12e journée s'achève ce soir. Et le promu Clermont accueille Marseille au bien nommé stade Gabriel Montpied.
Et le stade risque d'être assez partagé ce soir. Clermont, on le sait, vibre davantage pour le rugby que pour le foot. C'est la première saison du club en Ligue 1. Et quand il s'agit de foot, c'est vrai que les Clermontois se sont souvent identifiés à d'autres clubs qu'à celui de leur ville. Vous verrez souvent les anciens supporter Saint-Etienne, les plus jeunes se prendre de passion pour l'Olympique de Marseille. Et parmi les 13 000 spectateurs ce soir, Clément et Ibrahim, deux Clermontois, ils auront leur écharpe de Marseille autour du cou. Ils sont ravis de voir l'OM dans leur ville.
C'est génial et puis c'est rare, je crois qu'ils sont venus que deux fois dans les années 2000. C'est génial pour la ville, ça donne un peu de lumière au stade. On peut être une ville de foot aussi et quand il y a l'OM, bah, ça rassemble du monde. En plus, le stade est à Clermont-Nord. Je sais qu'à Clermont-Nord, il y a beaucoup de supporters marseillais. Il y aura toutes les générations, on sait les vacances, ça sera une belle ambiance. C'est une ville cosmopolite, il y a beaucoup de Portugais, on le sait, mais les Algériens, les Franco-Algériens sont beaucoup pour l'OM. Et il y en a pas mal ici.
Je sais que si l'OM joue à son niveau, même avec quelques remplaçants, il n'y aura pas photo. On ne veut pas rater le spectacle. La dernière fois qu'ils sont venus, moi j'y étais, c'était pour un match amical contre Benfica au Montpied. Il y avait Gignac, mais le stade il était plein. Et c'est l'OM, c'est une religion. Même à Clermont.
Et le coup d'envoi c'est à 20h45 de ce Clermont-Marseille. Un peu plus tôt, Brest a battu Monaco cet après-midi 2-0. Cet après-midi, victoire aussi de Bordeaux contre Reims 3-2. De Strasbourg face à Lorient 4-0. Montpellier bat Nantes 2-0. Nice l'emporte à Angers 2-1. Et match nul 2-2 entre Troyes et Rennes.
Il y a aussi du rugby ce soir, Maxime, avec un champion de France un peu déshabillé.
Oui, totalement pillé même. Le stade toulousain se rend sur la pelouse du Racing 92 avec 11 joueurs en moins. Ce n'est pas une épidémie de Covid, ce n'est pas une cascade de blessures non plus, c'est plutôt une fuite des talents. Ces 11 titulaires habituels de Toulouse sont à Marcoussis pour préparer la tournée d'automne du 15 de France, Fanny Lechevestrier.
11 sur les 28 bleus gardés tout ce week-end à Marcoussis. 40% du contingent tricolore est donc aujourd'hui toulousain. Logique justifie le co-entraîneur de la conquête du 15 de France, Karim Ghezal.
C'est lié aux prestations des joueurs qui ont des grandes qualités de rugby dans ce qu'ils font dans leur club. Des critères physiques et qui ont un état d'esprit remarquable. Qu'ils soient 11 du même club, quand ils sont ici, ils représentent la France.
Avec un atout supplémentaire tout de même, cela fait gagner du temps aux petits nouveaux toulousains. On pense à l'ailier Mathis Lebel, pressenti pour connaître sa première titularisation contre l'Argentine, mais aussi aux deuxième ligne Thibaut Flamand, dont les entraînements en bleu ont été salués par le spécialiste de la mêlée, William Servat.
Pour un premier entraînement, c'est quand même quelqu'un qui était souvent au rendez-vous. C'est un joueur qui arrive avec 11 joueurs de club, qui rentre dans ce collectif avec quelques repères, malgré le peu de temps de pratique commune, il s'est rapidement intégré.
Mais pas question pour autant de rester entre Toulousains, sourit le jeune Mathis Lebel.
Bon, on n'est pas là pour faire une secte de Toulousains, on a de s'ouvrir à tout le monde, partager des moments avec tout le monde, ça n'impacte pas le groupe France.
Quant au club de Toulouse, il misera une fois de plus sur sa formation pour répondre présent malgré tout en championnat ce soir.
Le stade toulousain qui cartonne pour le moment en top 14, 7 victoires en 8 matchs et qui reprendra la tête du classement ce soir en cas de victoire sur la pelouse du Racing. Coup d'envoi 21h05.
En tennis, le public revient à Bercy demain pour le Masters 1000 de Paris. Les joueurs français vont en avoir bien besoin pour se transcender, hein, Maxime.
Oui, ils sont seulement 7 dans le tableau, 2 dans le top 50 mondial au classement ATP. Autant dire que les chances de voir un Français triompher sont très faibles. D'autant que le meilleur Français, Gaël Monfils, est dans la partie de tableau du numéro 1 mondial, Novak Djokovic, qui pourrait donc lui faire barrage très tôt. Surtout que le Français n'est pas au mieux, comme il l'a confié cet après-midi.
J'ai toujours forcément beaucoup de fatigue et quelques petits pépins physiques forcément de fin d'année. Mais on est à Paris, donc on essaie d'oublier tout ça et d'aller à fond. Quoi. Alors, on parle plus de confiance, hein, parce que je pense que je joue très bien. C'est juste que voilà, j'ai beaucoup de fatigue physique, mentale. Et forcément, d'arriver dans un tournoi que j'affectionne énormément, ça te donne forcément du boost. Quoi.
Gaël, mon fils, qui affrontera un qualifié au premier tour, ce sera mardi. En bref, alors que les décomptes pour les Jeux Olympiques sont lancés, on est à moins de 100 jours des prochains Jeux d'hiver à Pékin, moins de 1000 désormais pour les Jeux de Paris en 2024. Sachez que la France envisage aussi l'organisation des Jeux d'hiver de 2030. Laurent Wauquiez, le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, veut porter la candidature des Alpes pour ces Olympiques. pour ces Olympiades. La décision doit être rendue d'ici 2 ans.
Merci Maxime Fayolle. Et restons dans les sports d'hiver et ces JO de Pékin qui commencent le 4 février. Nous nous arrêtons ce soir sur un sujet qui reste tabou chez les sportifs de haut niveau. La pression qui pèse sur leurs épaules et la dépression qui peut en résulter. 2 très jeunes skieuses françaises qui ont participé aux JO précédents en 2018 en Corée du Sud sont montées très haut à l'âge de 16 ans seulement avant de descendre très bas. Jérôme Val nous raconte leur histoire.
Le 16 février 2018, Julia Pereira de Souza Mabilo crée la sensation sur la piste de snowboard de Pyeongchang.
C'est complètement dingue ! Une médaille d'argent à 16 ans !
Avec cette médaille, elle devient à 16 ans et 149 jours la plus jeune médaillée française aux JO d'hiver.
Médaille d'argent, France !
Une médaille, France, Julia Pereira Mabilo !
Mais ce qui était un rêve éveillé à l'époque s'est très vite transformé en poids trop lourd à porter pour une adolescente.
J'étais pas préparée à vivre ce qui m'attendait. Moi, le snowboard, c'était full plaisir. Je faisais de la compétition pour m'amuser et j'avais pas du tout encore conscience que c'était mon métier et que je pouvais vraiment gagner ma vie avec ça. Et donc, du coup, me rendre compte déjà de ces choses-là à 16 ans, c'était pas simple. J'ai un peu grandi en accéléré.
Grandir trop vite à un âge aussi précoce, Julia Pereira de Souza Mabilo s'est posé beaucoup de questions au lendemain des Jeux.
J'ai eu un moment où j'étais dégoûtée parce que je me disais, mais mince, enfin, Julia, t'as 16 ans, tu fais pas les bêtises comme les autres jeunes de ton âge, sortir, faire la fête. Mais c'est des choses de la vie que du coup, ça s'est un peu effacé du coup avec le sport.
Tess Le Deux n'a pas connu la même réussite en Corée du Sud. À 16 ans, elle aussi, à l'époque plus jeune athlète de la délégation française, la native de Bourg-Saint-Maurice débarquait en favorite dans sa discipline très spectaculaire, le ski slopestyle. Elle a été sortie dès les qualifications, un échec qui lui a fait haïr son sport.
Quand je suis tombée, j'ai cru que mon monde s'écroulait en fait. Dégoûtée du ski, dégoûtée de la compétition, j'ai cru que j'étais passée à côté de la chance de ma carrière, que j'allais plus jamais réussir à faire des résultats, que j'ai perdu toute confiance en moi, ça a été super dur, j'ai pas touché à une paire de skis pendant 8 mois après les JO.
Deux trajectoires, mais le même questionnement. Comment mieux accompagner des adolescents vers le haut niveau, vers ces sommets sur lesquels sont braqués les regards du monde entier? Les deux jeunes femmes ont travaillé avec des psychologues ou des préparateurs mentaux, comme ce fut le cas pour Julia Pereira de Souza Mabilo.
C'est pas évident de se rendre compte à 16 ans qu'on a besoin d'un préparateur mental. Pour moi, tout allait bien. C'était juste l'euphorie d'être en équipe de France. Donc, j'en ressentais pas le besoin. Il y a un gros travail qui a été mis en place, effectivement, pour attaquer ces jeux sereinement, gérer un peu mes émotions.
Et ce travail a porté ses fruits pour Tess Le Deux.
Je pense que j'ai pris 10 ans en seulement 4 ans. J'avais 16 ans, j'étais un peu naïve. Et en fait, j'ai réalisé que voilà, s'il faut, j'en aurai 2, 3, 4 des JO et plusieurs chances de médailles.
Les deux jeunes femmes sont regonflées à bloc à l'aube de cette nouvelle saison du haut de leurs 20 ans et déjà une énorme expérience.
Un reportage signé Jérôme Val du service des sports de Radio France.
Le journal de 19h. Frédéric Barrère.
Et Cécile Bideau au micro toujours. Notre sélection des rendez-vous d'actualité de la semaine et que nous suivrons pour vous sur France Inter. D'abord, après-demain, mardi, Nicolas Sarkozy retrouve le chemin du tribunal correctionnel de Paris. L'ancien président de la République n'est pas poursuivi. Il sera auditionné comme témoin au procès des sondages de l'Élysée, des enquêtes commandées par le palais sans appel d'offres. Nicolas Sarkozy est protégé par son immunité parlementaire, mais les juges ont estimé que sa présence était obligatoire, le reliquat arrive.
Ça a été comme une déflagration. Personne ne s'y attendait. Au deuxième jour du procès des sondages de l'Élysée, le président du tribunal a ordonné l'audition de Nicolas Sarkozy en tant que témoin, au besoin en faisant amener l'ancien président par la force publique. On n'en arrivera toutefois pas à ce scénario-là. Nicolas Sarkozy a fait savoir qu'il se présenterait de lui-même à l'audience mardi. C'est donc la première fois qu'il sera interrogé dans ce dossier. L'association Anticorps, qui a porté l'affaire devant la justice, avait déjà réclamé son audition pendant la phase de l'instruction, mais l'ancien chef de l'État avait invoqué son immunité présidentielle et refusé en 2016 de se rendre au rendez-vous dans le bureau du juge. Un témoin a l'obligation de répondre aux questions du tribunal, il parle sous serment. Nicolas Sarkozy pourrait néanmoins faire valoir que l'immunité que lui garantit la Constitution l'empêche d'évoquer des faits qui touchent à sa fonction présidentielle, autrement dit ses commandes de sondage entre 2007 et 2012. Difficile donc de prévoir les conséquences qu'aurait une telle posture, la situation étant complètement inédite.
Également devant le tribunal de Paris, la concerne aussi l'Elysée. Vendredi, Alexandre Benalla sera fixé sur son sort. L'ancien chargé de mission proche d'Emmanuel Macron a comparu il y a un mois pour des violences lors de la manifestation du 1er mai 2018. Le procureur a requis 18 mois de prison avec sursis. Ce sera aussi vendredi prochain. Didier Raoult est convoqué par la chambre disciplinaire du Conseil de l'Ordre des médecins à Bordeaux. L'infectiologue controversé de Marseille est poursuivi pour plusieurs entorses au code de déontologie lorsqu'il faisait la promotion de l'utilisation de l'hydroxychloroquine pour lutter contre le Covid-19. Il a déjà fait savoir qu'il n'assisterait pas à l'audience. À partir de demain, la conférence des évêques de France tient son assemblée plénière à Lourdes. Au cœur des discussions, le rapport Sauvé sur la pédocriminalité dans l'Église. 120 évêques seront réunis pendant une semaine. Angela Merkel fait ses adieux à la France. Elle effectue mercredi sa dernière visite de chancelière avant de passer la main. Et elle a choisi Beaune en Bourgogne. Alors ce n'est pas pour l'homonymie avec la ville allemande de Beaune, mais pour le symbole culturel français, notamment le vin. Emmanuel Macron remettra les insignes de Grand Croix de la Légion d'honneur à Angela Merkel. Demain, à Hong Kong, s'ouvre un nouveau procès contre des militants pro-démocratie, dont le mania de la presse Jimmy Lai. Ils comparaissent pour s'être rassemblés en marge des commémorations de la manifestation de la place Tiananmen, rassemblement jugé illégaux par le régime chinois. Les liaisons maritimes entre l'Algérie et la France, interrompues dès le début de l'épidémie de Covid, reprennent mardi. Un premier ferry quittera Alger pour arriver le lendemain à Marseille. Cette semaine, la lanceuse d'alerte Frances Haugen poursuit sa tournée européenne. L'ancienne employée de Facebook, qui a rendu public des milliers de documents internes, sera à Lisbonne, au Portugal, lundi demain, puis à Paris la semaine suivante. Il y a trois semaines, son audition à Washington a fait beaucoup de bruit, et pas seulement sur les réseaux sociaux, Sébastien Paour.
Elle a passé plusieurs heures devant le Congrès américain. Elle a été entendue en début de semaine par les parlementaires britanniques à Londres. Elle sera reçue au Parlement européen dans une semaine avant Paris, dans 10 jours, à l'Assemblée et au Sénat. Frances Haugen continue donc de dénoncer les méthodes de l'entreprise où elle a passé à peine 2 ans et qu'elle a quitté au mois de mai. Et elle demande aux élus de réguler le géant aux 3,5 milliards d'utilisateurs. L'ingénieur de 37 ans se dit convaincu que les produits de Facebook nuisent aux enfants, alimentent les divisions et affaiblissent la démocratie. Elle parle d'une compagnie qui fait des choix uniquement guidés par le profit et qui s'enrichit sur le dos de notre sécurité, fermez les guillemets. Elle regrette que presque personne hors de Facebook ne soit au courant de ce qui s'y passe et elle estime qu'une société aussi puissante et influente a besoin d'être surveillé. Washington, Sébastien Paour, France Inter.
Et le prix est attribué à 2 proclamations attendues mercredi dans le monde littéraire. Le prix Goncourt, ils ne sont plus que 4 en lice. Sorge Chalandon, Louis-Philippe d'Alembert, Christine Angot et Mohamed Bougard. Et le Renaudot, les finalistes sont Amélie Nothon, Anne Berest, Nicolas Chemla et Abel Quentin. Et puis les fans ont forcément déjà coché la date dans leur agenda personnel. Le nouvel album d'ABBA sort vendredi, intitulé « Voyage » en français dans le texte. Il marque la reformation du groupe suédois après 40 ans de séparation. Ce que vous entendez là, c'est l'un des 3 titres déjà dévoilés, « Just a Notion ». À la préparation des journaux de 13 et 19 heures ce week-end en musique, Rachid Zourdani, Benjamin Ducy, Sébastien Denat, Mathilde Imberti, ainsi que Vincent Désir et Pierre Faucillon, un grand merci à eux. On termine avec les prévisions météo.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules des pros. Parce que votre activité n'attend pas. Les services en ligne Euromaster sont accessibles 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24.
Ça s'améliore petit à petit sur le pays, Jean-Michel Golinski.
La perturbation arrivée ce matin par l'ouest va terminer la journée sur un axe bassin méditerranéen nord-est, donnant toujours pas mal de pluie à son passage et de puissantes rafales vers 80-90 km/h. Demain, elle va passer les frontières, laissant encore pour la matinée un ciel assez maussade entre le Languedoc et les Alpes. Sur le reste du pays, c'est un temps dit très variable qui va se maintenir une grande partie de la journée, avec des averses mêlées de coups de tonnerre, surtout près de la Manche. Le tout poussé par un vent sensible et particulièrement turbulent sur les côtes, vent de nord-ouest qui va chasser les nuages l'après-midi du golfe du Lion à la Provence, mais pas sur la Corse. La neige va blanchir les Alpes à partir de 2000 mètres le matin, 1500 en soirée, et les températures de l'après-midi stables du golfe du Lion à la Provence et sur la Corse ne vont pas dépasser 13 à 15 degrés sur une large moitié nord et 16 en moyenne dans le sud-ouest.
Jean-Michel Golinski de Météo France.